mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 16 septembre. Aujourd'hui, dans la deuxième partie de l'émission, nous aurons un long entretien avec Béranger Rémy, chargé de mission à Natura 2000, qui viendra nous parler d'un bilan qu'ils ont fait sur l'action sur le territoire de toutes ces dernières années. Puis on parlera aussi un petit peu des oiseaux, quelques nouvelles de la biodiversité. Nous aurons aussi une chronique avec Héloïse qui est avec moi en studio aujourd'hui, notre stagiaire que vous avez déjà pu entendre au mois de juin. Et d'ici là, bien quelques petites infos, notamment pas mal à l'international. On va commencer par partir au Brésil. Et oui, au Brésil, c'est un bras de fer qui continue entre le président Lula et le président états-unien Donald Trump, le tout à propos de la condamnation de l'ancien président Jair Bolsonaro. Donald Trump, furieux de voir son allié idéologique et anciennement chef de pouvoir Bolsonaro condamné suite à une tentative de coup d'État, eh bien Donald Trump donc utilise maintenant l'arme commerciale pour se venger. Donc de cette condamnation quand même à 27 ans de prison pour Jair Bolsonaro, l'ancien président. Cette nouvelle attaque, en tout cas verbale pour l'instant, ne fait qu'amplifier les tensions entre les deux géants de l'Amérique. L'actuel dirigeant brésilien, donc Lula, a une nouvelle fois tenu ce dimanche à défendre la justice et la décision de justice de son pays face aux critiques de son homologue américain. Celui-ci a parlé notamment de chasse aux sorcières face à la décision de justice touchant l'ancien président brésilien. Les États-Unis ont donc puni le Brésil en imposant à nouveau des droits de douane de 50%, ce qui fait des droits de douane parmi les plus élevés du monde, sur une grande partie de ces produits. Plusieurs magistrats de la Cour suprême brésilienne, font par ailleurs l'objet de sanctions de la part de Washington, dans toujours la gestion de cette affaire Bolsonaro. Alors l'ancien président, donc Jair Bolsonaro, âgé de 70 ans, vient d'être condamné à 27 ans de prison pour avoir dirigé un complot infructueux visant à empêcher l'investiture de Lula à la présidence, puisque Lula l'avait devancé aux élections de 2022. Des mois d'enquête ont révélé des plans visant à m'assassiner, explique ainsi Lula, ainsi que le vice-président et un juge de la Cour suprême. C'est un texte qui a été publié en anglais donc, ce week-end par le président brésilien. Les autorités ont également découvert un projet de décret qui aurait effectivement annulé les résultats des élections de 2022. Concernant la brouille avec les États-Unis, Lula a continué « Lorsque les États-Unis tournent le dos à une relation vieille de plus de 200 ans, comme celle qu'ils entretiennent avec le Brésil, tout le monde y perd. Président Trump, conclut-il, nous restons ouverts à toute négociation susceptible d'apporter des avantages mutuels, mais la démocratie et la souveraineté du Brésil ne sont pas négociables. » Tiens, puisqu'on parle de condamnation, une autre actu qui a percuté celle-ci, c'est l'idéologue d'extrême droite et antisémite Alain Soral qui a lui aussi été condamné en France à un an de prison ferme. C'était ce jeudi 11 septembre qu'Alain Soral a été reconnu coupable de provocation à la haine raciale et incitation à la violence armée. Les faits remontent à des vidéos de 2020 pendant le confinement où cet influenceur d'extrême droite, donc appelé ses fidèles, à prendre le pouvoir par les armes. Il désignait aussi des personnalités juives comme ennemis et donc comme cible potentielle. Alain Soral a donc été condamné jeudi dernier à une peine d'un an de prison ferme, sans aménagement de peine, et à 4 000 € d'amende pour provocation à la haine raciale et le assez rare chef d'accusation de provocation publique non suivi des faits à commettre l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Au cours de l'audience qui a eu lieu au mois de juin en l'absence du prévenu, la procureure avait d'ailleurs recueilli une peine similaire. Les faits, je vous le disais, remontaient au printemps 2020. Donc, pendant la crise du Covid, il portait sur des propos tenus par Alain Soral dans des vidéos qu'il a diffusées sur ses médias, notamment sur YouTube. Il disait « Ce qu'il faut, c'est s'armer. On fait la révolution en prenant le pouvoir par les armes. » Un M16, donc un fusil d'assaut américain, c'est plus efficace pour exiger ses droits démocratiques qu'un gilet jaune. Et il évoquait même une guerre, un combat terminal contre cet ennemi qu'il faut avoir le courage de nommer. Et bah, il ne le nommait pas justement dans ses vidéos, mais on décrypte quand même assez bien ses propos, puisqu'il avait donné des noms après ça, hein, des noms de ministres en charge ou de soignants. Lévy, Buzyn, Hirsch, Gage, Deray, Jacob, Salomon, tous soignants donc, ou politiques. Tous et toutes en charge de la médecine d'État et, incidemment, vous l'aurez compris, juifs de confession ou d'origine. C'est ainsi que l'avocate de la LICRA, qui s'est donc portée partie civile dans ce procès, Ilana Soskin, avait souligné avec des extraits vidéo à l'appui que le prévenu n'inventait pas grand-chose dans ce sens, où on retrouvait littéralement la même description, cette description des juifs, dans Mein Kampf, le livre d'Adolf Hitler. Cette enquête menée donc contre Alain Soral avait débuté en juin 2020, abouti à son interpellation au mois de juillet de la même année. Il avait été cueilli au pied de son cossu appartement parisien du boulevard Saint-Germain, puisque la vente de ses livres, visiblement, génère pas mal de revenus. Les forces de l'ordre l'ont donc interpellé et il avait été placé en garde à vue et son logement perquisitionné. Dans ce logement, les enquêteurs avaient donc mis au jour, selon le dossier d'accusation qui a pu être consulté par le journal Libération, une bibliothèque, la bibliothèque du parfait nazi, hein, avec Mein Kampf et d'autres ouvrages antisémites. On pouvait aussi trouver ses carnets de notes lors de cette perquisition, où les enquêteurs y ont lu ce qu'il considérait lui comme un antisémite, c'est-à-dire un homme qui refuse de se soumettre à la domination juive, c'est-à-dire un homme pour lui, puisqu'il était aussi assez obsédé par la virilité. Celui qui se soumet, dit-il aux juifs, est un esclave. Et il avait aussi une définition de juif, c'était pour lui se plaindre de l'antisémitisme. Ces délires, d'ailleurs, il les a poursuivis lors de ses différentes auditions par les services de police. L'avocate Ilana Soskin rappelle que la peine prononcée est un signal fort aujourd'hui contre l'impunité dont Soral croit pouvoir bénéficier. Et elle rappelle donc que ce sexagénaire n'a même pas eu le courage de venir assister à son procès, puisque c'est depuis son exil suisse, où il se cache toujours de la justice française depuis 2019, qu'Alain Soral a appris qu'une nouvelle condamnation allait s'ajouter à son très lourd CV judiciaire. Reste donc qu'il devra maintenant répondre de ses diatribes antisémites et de la haine qu'il propage depuis trop d'années face à la justice, s'il était par ailleurs interpellé sur le territoire français. Voilà, une info qui était donc passée un petit peu à la trappe et qui, je trouve, fait un petit peu écho aussi à l'actualité états-unienne où de nombreux influenceurs d'extrême droite aussi continuent de faire la pluie et le beau temps, et notamment suite à l'assassinat de l'un de ceux-ci il y a quelques semaines, et ça continue de remuer pas mal de ce côté-là. Allez, je fais un pont un petit peu ironique, hein, en rebondissant sur la flottille de la liberté qui a pris la mer en direction de Gaza. Je dis de manière ironique, puisque beaucoup de commentateurs de médias, notamment situés pas mal à l'extrême droite, qualifient le tout soutien à la Palestine d'antisémite. Alors donc, quelques nouvelles de la flottille de la liberté, qui s'appelle la Global Sumud Flotilla. Après une longue étape à Tunis, notamment pour des préparatifs et des réparations, elle a aussi notamment été visée par une attaque de drone, je vous en ai parlé la semaine dernière, qui n'a heureusement pas fait de victimes humaines, eh bien les bateaux ont donc finalement appareillé et pris la mer. Ce sont une cinquantaine de bateaux en tout qui sont en train de se rejoindre pour entamer la longue traversée, hein, je crois que c'est 2 ou 3 semaines de mer, qui doit les mener jusqu'au rivage de la bande de Gaza en Palestine, avec l'objectif humanitaire d'y amener des vivres, et surtout, symboliquement, mais aussi bien concrètement, de briser le blocus qui est imposé à cette population par l'État d'Israël. Ces derniers jours, en plus, le président israélien Netanyahou a annoncé son plan d'annexion du territoire et l'armée est entrée militairement dans les dernières zones refuges. On peut lire par exemple sur les nombreux soutiens à cette flottille par une députée insoumise, Clémence Guettet, alors que les massacres se poursuivent, que l'ONU dénonce le plan génocidaire du gouvernement israélien, que les journalistes y sont assassinés, les puissances occidentales se terrent dans le silence et la complicité. Pour ce qui est de cette flottille, donc, les équipages sont constitués de plus de 300 volontaires, tous activistes, personnalités politiques ou médiatiques, venant de plus de 40 pays. Pour les Français, on peut citer Adèle Haenel, l'actrice, ou bien Rima Hassan, la députée insoumise, pour ce qui est des plus connus. 39 bateaux aujourd'hui sont recensés sur une carte interactive qui est disponible sur Internet, mais ils vont augmenter au fur et à mesure donc, que les différents équipages justement se signalent via leur GPS ou leur appli, je ne sais pas trop comment ça marche. Donc 22 bateaux naviguent en ayant quitté le port de Tunis. Ils étaient déjà arrivés de Barcelone il y a quelques semaines. Ils sont aujourd'hui dans les eaux internationales autour de l'île de Pantelleria, donc des eaux siciliennes. 17 autres navires sont en train de les rejoindre en mer, donc depuis justement le port de Gênes. Ils sont stationnés actuellement au sud de la Sicile. À noter d'ailleurs que ces eaux internationales sont les mêmes où les migrants arrivant d'Afrique tentent souvent de rejoindre les rivages européens à bord d'embarcations très, très fragiles. D'ailleurs, la flottille a la semaine dernière secouru une embarcation avec 4 exilés dedans qui ont sauté à l'eau pour ne pas se faire arrêter par la police libyenne. Voilà, donc la flottille a pris la mer et donc sur le site globalsumudflotilla.org, vous pouvez par exemple, il y a une carte et suivre en temps réel eh bien, l'avancée de tous les bateaux avec leur nom, les équipages, etc. Cette carte interactive. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a de nombreux comptes sur Facebook, par exemple, mais aussi Instagram ou tous les réseaux sociaux qui relayent des avancées des bateaux et qui vous font des petits comptes rendus selon les différentes personnes à bord. Par exemple, on a Thomas Guénolé qui fait des vidéos tous les jours ou sur le site aussi de l'Humanité. Ce jeudi 18 septembre, c'est journée de mobilisation. Après le bloquons tout du 11 septembre, un nouveau mouvement de grève important va donc survenir sur le territoire national. Cette fois-ci, ce sont bien les syndicats et l'intersyndicale qui sont à l'origine du mouvement. Ils appellent à une grande mobilisation ce jeudi, une journée qui devrait être très suivie selon une note du ministère de l'Intérieur. Côté transport, on s'attend probablement à une journée noire, puisque plusieurs organisations syndicales appellent à la grève, que ce soit la SNCF, la RATP ou Air France. Pas le syndicat des contrôleurs aériens, à noter. Côté service public, les électriciens et les gaziers, eux aussi, ont appelé à débrayer. Et du côté de l'éducation nationale aussi, le mot d'ordre de grève est relayé et il risque d'être très suivi. Autre secteur à noter, les pharmacies ont appelé à baisser le rideau pour protester, eux, contre la baisse du prix des médicaments, tout comme les kinés, les kinésithérapeutes, qui veulent voir leurs actes revalorisés. Selon les informations de France Télé, le ministère de l'Intérieur prévoit donc pour cette mobilisation de jeudi de 350 000 à 500 000 personnes. Ce serait au moins donc le double de la semaine dernière. Les autorités s'attendent par ailleurs à peut-être des actions coup de poing et redoutent des débordements. Pour quelques rendez-vous dans l'Hérault à Montpellier, c'est à 10h30, place Albert 1er que démarra le cortège. À Ganges, à 18h, un rendez-vous est donné devant la mairie. Au Vigan, ce sera à 10h30 devant la sous-préfecture du Gard. Et pour ce qui est des grandes villes gardoises, à 14h30 à Nîmes pour un départ des Jardins de la Fontaine, à Bagnols-sur-Cèze à 10h du matin au Monument aux Morts, à Alès devant la sous-préfecture à 10h aussi, et à Uzès, une manifestation est prévue dès 9h30 devant la mairie pour être devant les lycées à l'heure de la récré, préviennent les organisateurs. Et puisque la semaine dernière, vous le savez, j'étais en manifestation à Montpellier, je vous ai ramené un petit reportage. Et on a entendu beaucoup de slogans de manifestants qui réagissaient à la nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre la semaine dernière. Je passe donc le micro à Héloïse, notre jeune élève journaliste en stage à nouveau pour ce mois de septembre sur Radio Escapade. Héloïse qui s'est intéressée au profil du nouveau résident de Matignon.
Et oui, depuis quelques jours, un nom s'impose dans l'actualité, c'est celui de Sébastien Lecornu. Arrivé à Matignon dans un contexte plutôt électrique, entre dissolution de l'Assemblée, mécontentement qui gronde et manifestations jusque dans les rues de Montpellier, il est propulsé au centre du jeu politique. Mais derrière ce nom qui revient de partout, qui est vraiment notre nouveau Premier ministre ? Alors revenons un peu en arrière. Le 8 septembre 2025, l'Assemblée nationale rejette François Bayrou. 364 voix contre 194, un résultat sans appel. Bayrou n'a plus le soutien nécessaire pour gouverner et il présente sa démission à Emmanuel Macron. Le président se retrouve donc face à un choix délicat, qui pour prendre les rênes du gouvernement dans ce contexte déjà explosif ? La réponse, selon Macron, Sébastien Lecornu, évidemment. À 39 ans, Lecornu devient le plus jeune Premier ministre de la 5e République. Pour certains, c'est un symbole de renouveau, jeunesse, énergie, souffle nouveau. Pour d'autres, ça soulève des questions. A-t-il l'expérience pour naviguer dans ce chaos ? Son parcours parle pourtant pour lui. Maire de Vernon, président du conseil départemental de l'Eure, secrétaire d'État, ministre des Outre-mer, ministre des Armées depuis 2022. Clairement, il n'est pas un novice. Il a supervisé un plan de modernisation militaire colossal de 413 milliards d'euros jusqu'en 2030. Pourtant, dans l'opinion publique, la confiance n'est pas au rendez-vous. Selon un sondage Odoxa, pour Le Figaro, 69% des Français estiment que Le Cornu ne correspond pas à leurs attentes. Mais ce qui fait débat, ce n'est pas seulement son âge ou son expérience, c'est aussi son parcours politique. Ancien membre des Républicains, directeur adjoint de la campagne présidentielle de François Fillon en 2017, puis il rejoint La République En Marche et devient un fidèle allié d'Emmanuel Macron. Et ça, ça lui colle un peu à la peau. Certains voient en lui le symbole d'une continuité, d'une politique contestée, et pas forcément le souffle d'air frais qu'on espérait. En 2012, alors candidat au municipal à Vernon, Le Cornu déclarait que le communautarisme gay l'exaspérait autant que l'homophobie. Il s'opposait également au mariage pour tous, estimant que le mariage devait se construire entre un homme et une femme. Ses propos ont refait surface avec sa nomination à Matignon, alimentant les critiques de nombreuses associations et personnalités politiques. En 2015, il confirmait son opposition à la gestation pour autrui et à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes, tout en évoquant son expérience de campagne et les pressions rencontrées à l'époque. Plus récemment, en 2019, il avait affirmé avoir beaucoup cheminé sur ces sujets et se disait désormais favorable à la PMA telle qu'introduite dans la loi. Ses positions passées ont malgré tout ravivé les inquiétudes au sein de la communauté LGBT et de certains partis politiques. Ainsi, la secrétaire nationale des écologistes a expliqué que les écologistes ne pourraient envisager de travailler avec un gouvernement dirigé par Le Cornu, le jugeant ni de gauche ni écologiste et rappelant ses positions jugées homophobes. Bref, entre ses anciennes déclarations et les attentes du public, Le Cornu a de quoi faire grincer quelques dents. Maintenant, parlons du contexte immédiat. La France est en ébullition. Les manifestations se multiplient. Ici, à Montpellier notamment, sur la place de la Comédie, plusieurs milliers de personnes se rassemblent. Ils protestent contre la politique économique du gouvernement, contre la hausse du coût de la vie, contre certaines réformes des retraites et la diminution de certaines aides sociales. Les gens réclament du dialogue, des réponses claires à leurs préoccupations quotidiennes et ils le font savoir fort et clair. Sébastien Le Cornu doit donc gérer un contexte plutôt explosif, colère sociale, attente économique forte et une Assemblée nationale fragilisée. Son image divise, certains y voient un jeune technicien capable de réformer et de garder son sang-froid, d'autres un symbole d'une élite déconnectée, trop proche de Macron et éloignée des réalités du quotidien. Ces tensions se reflètent dans les manifestations qui se multiplient partout en France, révélant la défiance envers l'État et ses représentants. Son mandat commence donc sous haute pression, stabiliser le pays, restaurer la confiance dans les institutions et préparer la prochaine session parlementaire. Va-t-il réussir à trouver cet équilibre, à apaiser la colère et convaincre les Français qu'il peut être le Premier ministre qu'il faut aujourd'hui? Ou verrons-nous encore des semaines, voire des mois, de tensions sociales et institutionnelles? On le saura dans les prochains jours et les prochaines semaines. Une chose est sûre, Sébastien Le Cornu a pris un rôle clé dans un moment difficile pour le pays et ses décisions vont façonner la manière dont la France traversera cette période de tension et de réforme.
Merci beaucoup Héloïse pour cette petite chronique. Bienvenue de nouveau sur les ondes de Radio Escapade.
Oui, merci.
Tu restes donc tout le mois encore avec nous, c'est ça?
Oui, jusqu'à mi-septembre.
Et l'école a repris?
L'octobre. Non, du coup, après, je reprends
après,
le stage.
Très bien. Et donc, cette année, c'est quoi pour toi le programme?
Là, j'ai terminé ma première année. Donc là, je rentre en deuxième année en école de journalisme, toujours à HEJ à Montpellier.
Et tu viendras donc faire des chroniques dans les Nouvelles du Monde et aussi dans l'agenda culturel. Et ben donc, on te retrouvera très très vite sur les ondes.
Oui.
Qu'est-ce donc cette diablerie?
Des Nouvelles du Monde.
Allez, vu que le mois de septembre arrive, les envies de balade, de rando, de champignons, on va revenir un petit peu dans nos belles vallées et plateaux Cévenol. Tout d'abord avec cette brève piochée dans Midi Libre ce matin à propos d'une libellule rouge qui vient de faire son apparition sur le territoire. Vous l'avez peut-être déjà croisée au bord d'une rivière ou en balade. Elle s'appelle, ou il s'appelle, puisqu'ils sont des deux sexes, les libellules comme tous les animaux, le Trithemis à ailes ambrées. C'est une magnifique libellule, facilement identifiable, avec une silhouette très fine et une couleur rouge éclatante. Chez le mâle, d'ailleurs, explique le parc national des Cévennes, le corps semble avoir été trempé dans de la peinture écarlate, tant sa coloration est vive et uniforme. C'est très rare, hein, on ne peut donc pas la confondre avec une autre espèce très colorée, le Crocotémis écarlate, qu'on rencontre aussi dans notre zone, mais qui a lui du rouge vif, mais pas jusqu'au bout des ailes. Voilà, si vous arrivez à avoir des libellules rouges, vous saurez un petit peu comme ça les différencier. Eh bien, cette nouvelle libellule, nouvelle sur notre territoire, apprécie une grande variété de milieux aquatiques, hein, des eaux comme des grandes rivières, des eaux stagnantes, même des plans d'eau temporaires. Elle peut pondre jusqu'à 750 œufs par an, et elle est donc bien partie pour s'implanter dans nos régions. C'est donc une nouvelle migrante, puisqu'elle était longtemps cantonnée aux régions très chaudes, et que ce Trithemis kirbyi remonte peu à peu vers le nord. Portée probablement par le réchauffement climatique, et elle s'installe après des vagues de chaleur intenses, et donc s'implantant ainsi petit à petit de plus en plus haut en Europe. On a pu d'abord la voir en Sardaigne en 2003, puis en 2007 dans le sud de l'Espagne, puis l'Aude en 2017, et maintenant c'est en Cévennes qu'un mâle avait été observé en 2022 dans les gorges du Tarn. Et cet été, de nombreux témoignages sont venus corroborer la présence de cette espèce, par exemple à Malbouzon, à Saint-André-de-Majancoul, à Luèche, Saint-Enimi. Et voilà. Le parc national des Cévennes appelle donc les promeneurs à lui signaler toute nouvelle libellule pour essayer de mieux suivre l'évolution de cette espèce qui est partie, vous l'aurez compris, pour faire partie maintenant du territoire. Notre invité, maintenant est un interlocuteur privilégié d'ailleurs pour ce genre d'informations. Vous pouvez aussi éventuellement l'appeler si vous le voulez pour lui parler d'espèces que vous auriez croisées. Il est passé ce matin au micro de Radio Escapade. Il parcourt lui aussi toute l'année les sentiers et les crêtes cévenoles pour en observer la biodiversité et documenter toutes ces évolutions. Il propose aussi de nombreuses animations sur le territoire au grand public en travaillant avec des partenaires locaux. Vous l'aurez bien sûr reconnu, c'est Béranger Rémy, chargé de mission Natura 2000, qui est donc embauché par la communauté des communes des Cévennes gangeoises et suménoises depuis 2016 et qui a longtemps pratiqué les micros de Radio Escapade, puisqu'on l'appelait ici l'ornithoquois sur les ondes, très regretté d'ailleurs, il reviendra peut-être un jour. Bien, il est donc passé ce matin nous parler d'une restitution qui a eu lieu le 8 septembre dernier à Sumène, la restitution de résultats d'un diagnostic d'ancrage territorial. Encore des termes un peu techniques, un diagnostic d'ancrage territorial donc pour une zone de protection spéciale qui concerne les gorges du Rieutor, la Fage et les Cagnasses, et également la réserve naturelle régionale de Combechaude. Voilà, il va vous expliquer tout ça, et on en profitera aussi pour prendre des nouvelles des oiseaux du territoire. Mais avant, vu que c'est la rentrée, on révise les bases, en ouvre les livres de Géo, et on essaie de se rappeler déjà ce que signifie ce label Natura 2000.
Oula, depuis combien de temps ?
Alors, Natura 2000, c'est européen.
Natura 2000, c'est une directive européenne qui se découle en deux directives, en fait. Une première qui s'appelle la directive oiseaux, qui date de 1979, où ils se sont aperçus à cette époque-là que la biodiversité, en particulier les oiseaux, était en train de disparaître. Et du coup, la réponse à l'Europe, ça a été de mettre en place une directive pour protéger ces oiseaux sur le territoire communautaire. Et Natura 2000, ça a été complété donc en 1992 avec la directive Habitat Faune Flore, où en 92, ils se sont aperçus qu'ils avaient oublié une petite partie de la biodiversité, à savoir tout le reste que les oiseaux, donc les mammifères, les insectes, les poissons, les reptiles, enfin tout, plus les habitats naturels. Et donc ils ont complété ce dispositif qui est devenu Natura 2000 en 92. Pourquoi Natura 2000 ? Pourquoi 2000 ? C'est parce qu'ils s'étaient dit qu'en 2000, en l'année 2000, donc il y a 25 ans, tout ça serait calé et tout ça serait en place et puis qu'on protégerait la biodiversité de manière efficace en Europe. Autant dire que on n'est pas en avance.
Natura 3000 bientôt.
Ouais, peut-être, ouais.
Donc toi, on l'a dit, tu travailles sur la Comcom Gange Sumène.
Ouais.
Mais cette zone Natura 2000 s'étend un petit peu hors des limites de la communauté.
Alors,
de communes.
Alors moi, ma zone de travail, elle n'est pas calée sur le territoire de la communauté de communes. Elle est calée sur un site Natura 2000. Moi, mon travail, c'est d'animer un site Natura 2000, c'est-à-dire de mener les actions sur ce site. Ce site, il s'appelle Gorge du Rieutor Fage Cagnasses. J'en ai souvent parlé à cette antenne il y a quelques années.
Parce que que vous reconnaissez peut-être la voix de Béranger, qui était l'animateur de Ornitoco, une émission d'ornithologie.
Voilà. Donc cette zone, elle fait 12 000 hectares à peu près. Elle concerne 11 communes qui sont à cheval entre Gare et Hérault, entre communauté de communes de Sévennes-Gangeoise et Suménoise et la communauté de communes Piémont-Sévenol. Parce que ici à Saint-Hippo, on est concerné, à Conquerac, à Pompignan, à Sumène, à Ganges, à Saint-Bosile-de-Putois. Voilà. Et cette zone, elle a été définie en 2006 pour la conservation notamment de deux espèces de rapaces considérées comme très menacées à l'échelle internationale, etc., qui sont présents ici, à savoir un couple d'aigle de Bonelli et un couple de vautours percnoptères, qui est un petit vautour migrateur qui est présent sur ce site Natura 2000 et qu'on cherche donc à protéger de manière efficace. Et ça concerne aussi plein d'autres espèces d'oiseaux et pas mal de rapaces.
Et pour terminer sur cette délimitation géographique, tu peux nous dire un mot de cette réserve naturelle régionale qui est aussi affiliée du coup à cette zone ?
Ouais, alors sur ce territoire, on trouve d'autres sites de protection, comme par exemple une partie du parc national des Cévennes aussi, la zone d'adhésion, une partie de la zone d'adhésion du parc national, et aussi une petite réserve qui fait 53 hectares, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle la réserve naturelle régionale de Combe-Chaude, qui est donc à Sumène, dans les gorges du Rio Tor. Une petite réserve qui a été délimitée dans les années 80, je ne me rappelle plus la date exacte, 86 je crois, au départ par un périmètre qui s'appelait réserve naturelle volontaire. C'était une association qui s'appelait l'AVEN qui a créé cette réserve, l'association viganaise pour l'environnement, et qui est une propriété du département du Gard. Voilà. Et en fait, cette année, on a fait un travail qu'on appelait un diagnostic d'ancrage territorial, en même temps sur la zone Natura 2000 Gorge du Rio Tor, Fage Cagnas, et en même temps sur la réserve naturelle de Combe-Chaude, qui est gérée par le conseil départemental du Gard. Donc ce dispositif diagnostic d'ancrage territorial a été mené sur une durée de 6 mois, avec l'aide d'une stagiaire, Pauline Calvier, qui est allée à la rencontre des partenaires, enfin de quelques partenaires avec qui on travaille depuis 2016, aussi bien sur la réserve de Combe-Chaude que sur le site Natura 2000, pour un peu recueillir leur perception de notre travail. Ben déjà, savoir s'ils nous connaissaient, parce que bon, on a tapé un peu, pas au hasard, mais il y avait des acteurs qui nous connaissaient plus ou moins. Savoir s'ils connaissaient notre action, et comment il apercevait notre action, si c'était s'il la voyait plutôt de manière positive ou négative, et aussi de faire des propositions pour essayer d'améliorer éventuellement ce qu'on fait.
C'est-à-dire que d'habitude au quotidien vous allez quand même plutôt observer la faune, la flore de ces zones, et là vous êtes demandé un petit peu si les humains qui l'habitaient et qui la pratiquaient étaient au courant de ces mesures de protection et comment ils les vivaient.
Ouais, exactement. Alors parce que du coup, oui,
de la médiation.
On va voir, on passe du temps à aller observer ces oiseaux, enfin cette biodiversité, mais on fait pas que ça. On fait aussi des animations, on fait aussi des mesures de conservation avec les MAE, les mesures agro-environnementales, des contrats Natura 2000 où on fait des chantiers de restauration d'habitat. On travaille, je sais pas moi, pour sécuriser les lignes électriques. Enfin, on travaille sur plein de sujets, de thématiques. Et qu'est-ce que j'allais dire?
Cet ancrage territorial, donc c'est l'ancrage de votre travail, et ben c'était la première fois qu'il y avait un diagnostic de ce genre fait, si j'ai bien compris.
Exactement, ça permet déjà, c'est pas nous qui l'avons fait, on a fait faire par une stagiaire, mais une stagiaire qui n'est pas du territoire, qui ne connaissait rien au départ, qui ne nous connaissait pas. Et ça a été un choix de notre part pour avoir un regard extérieur et pour prendre un pas de côté, et regarder un peu.
Qu'il n'y ait pas de biais aussi. Ouais,
éviter les biais, quoi. Parce que sinon, nous, si c'est nous qui le faisons,
tout le monde va dire que c'est super.
Voilà, on connaît déjà les acteurs. Ça met quand même pas mal de...
Une sorte d'enquête, quoi.
C'est ça. Et puis pour regarder, et puis pour avoir un peu un côté critique de ce qu'on fait, et puis pour peut-être changer de direction, modifier certaines choses, parce qu'on est allé aussi jusque-là pour proposer des améliorations dans ce travail, quoi.
Alors les grandes lignes de ce projet donc a été restitué le 8 septembre dernier. Vous avez fait ça à Sumène, c'est ça?
Ouais, on a fait une réunion de restitution avec toutes les personnes qui ont été interviewées étaient invitées, et puis aussi tous les partenaires du comité de pilote, enfin les élus, les chambres d'agriculture, l'ONF, etc. Et donc les grandes lignes, c'est que on est très satisfait des conclusions, parce que en fait ce qu'on fait, c'est apprécié, et les gens en demandent plus. Et ça fait plaisir parce que quand moi j'ai commencé en 2016, et j'ai souvenir de personnes que je rencontrais qui voyaient plutôt ça d'un côté négatif, voire très négatif.
Ils avaient peur qu'on les empêche de faire des choses.
Ouais, c'est exactement
ça. C'est souvent ce qui est reproché, toutes les mesures de protection de la nature.
Bien sûr. Et l'ambiance, les médias globales, pas Radio Escapane, mais d'autres médias nationaux, on ne donnera pas de nom, souvent ont quand même une tendance à venir un peu noircir ce truc-là en disant
opposer écologie, activité humaine, par exemple.
Oui, ça marche. Enfin, c'est chiant. Ça met des contraintes. Chose qu'on peut aussi entendre parmi certains partenaires. Et en fait, la plupart des gens, des structures avec qui on travaille, en fait, ils voient ça d'un très bon œil. Et ils en demandent plus. En fait, ils disent, en fait, vous protégez pas assez la biodiversité. Il faudrait en faire plus. Parce que aussi, on a fait une enquête auprès du grand public. On a interviewé, Pauline a interviewé 34 partenaires de manière, c'était des entretiens très très longs, avec plein de questions. Et aussi, on a fait une enquête grand public qui a recueilli 330 réponses. Là, par contre, c'était tout public. Enfin, qui voulait répondre à ce truc-là. Et pareil, les gens, en fait, ils en demandent plus, quoi. Enfin, ils disent, faut continuer à protéger la biodiversité, c'est important. Et il y a beaucoup de demandes sur tout ce qui est sensibilisation, animation, de faire plus de sensibilisation auprès de différents publics, que ça soit dans les écoles, du grand public, etc., etc.
Ça, on peut rappeler que vous faites déjà des choses en milieu scolaire.
Oui, moi je vais assez régulièrement dans les écoles. J'ai été ici à Saint-Hippolyte-du-Fort. Cette année, j'ai fait un projet pédagogique avec une école à Saint-Bosile-de-Putois. Je vais dans l'école maternelle à Ganges. Enfin, oui,
Sumène,
j'y vais. Enfin, les enfants, ils me connaissent dans à peu près toutes les écoles du territoire. C'était rigolo parce que c'était ça aussi qui ressortait dans ce diagnostic, c'est que les gens, les partenaires, etc., me connaissent, moi, Béranger.
Par les enfants,
entre autres, mais aussi des adultes. Mais par contre, ils savent pas forcément que derrière, il y a la communauté de communes qui s'occupe de ça, l'organisation Natura 2000, etc. Enfin, voilà, c'est... Et enfin, moi, c'était bien pour moi, ça m'a flatté un peu. Ça fait toujours plaisir.
Et sur les pistes, éventuellement, les critiques ou les propositions, on va dire.
Les propositions, du coup, il y a aussi cette histoire de réserve de Combe Chaude. Alors, par contre, sur la réserve de Combe Chaude, c'était positif, globalement, mais des gens étaient en demande de faire plus vivre cet espace où il y a une, je ne sais pas si vous voyez où c'est à l'entrée de Sumène, là, de l'autre côté du Rio Tor, où il y a une
c'est là où il y a la grotte avec les chauves-souris.
Il y a une grotte en haut dans les falaises avec effectivement une très belle colonie de chauves-souris. Mais il y a cette maison de la réserve là qui est entre le Rio Tor et la Voie Verte, qui est un lieu qui malheureusement est souvent fermé. Et en fait, les deux gens, ils sont demandeurs de faire vivre cet espace, que ça soit un peu plus accueillant pour le public. Et là-dessus, du coup, on a un petit peu des marges de progression à avoir. J'en parle à la région là, qui nous finance, si on pouvait avoir un poste d'animateur nature.
Parce que c'est pas votre responsabilité directe, cette maison-là de...
Alors la maison de la réserve, elle dépend du conseil départemental. Okay. Mais du coup, il y a un conservateur qui est basé à Nîmes et où il y a, enfin, lui, il est aussi, il aimerait bien venir plus souvent, mais en fait, il y a des financements et tout ça qui sont limités. Donc, idéalement, ça serait si on pourrait avoir une personne qui ferait de l'animation nature, de la sensibilisation, qui soit sur ce site ou d'autres, qui aille dans les écoles, etc. Enfin, après, il y a plein de choses à faire, mais essayer de multiplier les moyens humains pour essayer de faire plus et répondre à cette demande. Mais bon, après, on est lucide. Dans le contexte actuel, on a un peu d'espoir.
Puisque tu parles du contexte actuel, là, ce diagnostic donc, que vous avez mené là, sur toute la période finalement qui n'avait jamais été faite jusque-là, c'est aussi une manière d'envoyer des signaux justement peut-être aux instances au-dessus, dans une période où on a tendance à couper un peu les budgets, à se dire que l'écologie ça passe après, je ne sais pas, la guerre et l'économie.
Oui.
C'est aussi une manière de dire, non mais en fait regardez ce qu'on fait, c'est bien sur le territoire, vous avez espoir justement que ça soit, hormis l'ancrage local qui fait du bien aussi, mais de peut-être de peser un petit peu sur les défis futures décisions ?
Ben moi, je suis le premier à être persuadé que défendre le vivant, c'est quelque chose de primordial, d'essentiel, et tout ce qu'on veut avant de faire plein d'autres choses, comme la guerre, par exemple. Et on va le payer très cher dans pas longtemps, de pas s'être assez préoccupé de ces questions-là. Nous, humains, mais bon, enfin voilà, après, enfin, bref, c'est un vaste débat. Et ben oui, cette diagnostic d'ancrage territorial local, il vient alimenter ça en disant, ben voilà, ce qu'on fait, ça sert à quelque chose, et c'est utile, et ça marche. Mais il y a d'autres signaux hein, qui disent ça. Il y avait une étude il y a quelques années menée à l'échelle européenne qui disait que Natura 2000, ça marche pour protéger la biodiversité parce qu'il y a un réseau de sites protégés à une grande échelle qui est l'Europe. Et on peut faire des choses quand on se donne les moyens. Mais après, il y a aussi des trucs qui ne marchent pas et qu'on sait, comme par exemple l'agro-industrie. On sait que c'est une catastrophe pour le vivant, pour la biodiversité. Et ça, par contre, on voit que ça va pas dans le bon sens, quoi. Et il y a aussi des petites résistances qui se mettent en place, mais il va falloir faire beaucoup plus et avancer sur ces sujets-là si on veut un jour vraiment protéger la biodiversité.
Alors, je suis allé faire un petit tour sur les pages qui sont animées, donc soit sur le site de la Comcom, notamment, où sont répertoriés un petit peu des articles qui relaient vos actions, ou sur des pages Facebook aussi.
Ouais, on a une page Facebook propre au site Natura 2000 Gorgerie Autorfage Cagnas qui s'appelle Nature à 12 000. C'est un petit clin d'œil par rapport aux 12 000 hectares du site. Et c'est moi qui relaye quelques infos sur ce site.
Ouais. Oui, on peut voir d'ailleurs qu'effectivement, les oiseaux, les espèces comme ça qui se reproduisent, dès qu'on arrête éventuellement de couper les endroits où ils nidifient ou de les chasser, en fait ils reviennent assez vite, donc il y a aussi on peut voir en plus concrètement sur une décennie ou même des fois sur quelques années, tout d'un coup dès qu'on arrête la chasse ou dès qu'on protège des nids, tout d'un coup les oiseaux reviennent.
On met en place des mesures je prends l'exemple de l'aigle de Bonnigny que je connais bien, moi je travaille sur cette espèce depuis 2005 et en fait ce qui avait été mis en avant sur l'aigle de Bonnigny, c'est que la première cause de mortalité de cette population française, c'était l'électrocution sur les lignes électriques. Il y a eu un gros programme de fait avec EDF, ERDF, maintenant ça s'appelle Enedis, pour protéger les lignes électriques là où les oiseaux ils s'électrocutaient le plus. Ça marche en fait. Quand on se donne les moyens de faire des choses, ça fonctionne. Et du coup, on a eu des taux de survie qui ont augmenté pour la population d'aigles de Bonnigny en France. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une population d'aigles qui est en beaucoup meilleure forme. On était descendu à 23 couples en 92. Aujourd'hui, on est à 51 couples en France. Et il y a une courbe qui est plutôt très positive, qui est positive depuis quelques temps, parce qu'on a mis en place des actions. On pourrait citer l'exemple de la cigogne, par exemple. La cigogne, c'est une espèce au niveau national où il y a des gros programmes de protection de cet oiseau et de son habitat. Et pareil, ça a marché. Si aujourd'hui on se donnait les mêmes moyens pour, le bruant ortolan, c'est une espèce d'oiseau qui niche dans les cultures et qui est en train de disparaître, qui disparaît.
Ouais, les espèces qui nidifient dans les champs, c'est compliqué.
Ah, c'est la catastrophe. Le bruant ortolan cette année, je n'en ai pas entendu ici.
Et alors, puisque tu parlais de l'aigle de Bonnigny, j'ai lu aussi justement qu'il y avait eu malheureusement une mort là, il y a peu de temps.
Oui, parce qu'on sécurise les poteaux, mais il en reste encore un paquet à faire. Je parlais des
preuves par A plus B là. Ouais.
Alors là, on a un cas où l'oiseau, il a eu triple peine. Trois phénomènes qui se sont conjugués. Donc c'est une femelle d'aigle de Bonnigny qui était nicheuse, c'est-à-dire qu'elle était cantonnée sur un site de reproduction, sur une falaise, en couple avec un mâle. Et en pleine période de reproduction, c'était au mois de février dernier, elle s'est faite chasser de son site de reproduction. Donc on peut penser que c'est un phénomène qui est complètement naturel. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre femelle qui est venue sur le site et qui lui a pris sa place, qu'il a éjectée. On pourrait penser que c'est un phénomène naturel, mais en fait, pas tout à fait quand on regarde d'un peu plus près, parce qu'en fait cette femelle qui est venue prendre sa place, en fait naturellement elle aurait dû ou pu en tout cas aller s'installer sur un site libre, sur une falaise, parce que des falaises il en existe pas mal sur le territoire de domaine vital des Bonnigny. En fait le problème c'est que ces falaises libres il n'y en a plus beaucoup parce que souvent il y a des voies d'escalade, il y a une via ferrata, il y a un lotis qui s'est construit au pied, il y a je sais pas quoi, il y a je sais pas quoi. Et du coup, ces oiseaux qui cherchent des espaces où s'installer, ils font plutôt le choix de venir prendre la place sur des sites qui sont occupés, parce que les falaises, par contre, elles sont de qualité souvent. Les meilleures places ont été prises en premier. C'est pas vraiment un phénomène naturel, quoi. Enfin, si on creuse un petit peu.
Ensuite, cette femelle, elle, ça, elle a plus de nid.
Donc cette femelle, elle s'est faite virer de son site au mois de février, alors qu'elle devait pondre incessamment sous peu. Donc elle s'est faite virer le... Parce que le vendredi, on voyait 3 oiseaux sur le site, le samedi, il y avait encore 3 oiseaux, le dimanche, il n'y en avait plus que 2, la nouvelle femelle et le mâle. Et on voyait plus la femelle. Et le lundi, une personne de Pompignan, pas très loin d'ici, là, nous contactait, comme quoi elle avait trouvé Annec de Bonini mort au pied d'un poteau électrique juste à côté de chez elle. Donc il s'avérait que c'était la femelle du site historique, enfin la femelle historique qui était baguée. C'est comme ça qu'on a pu l'identifier. Donc on a pu rapidement récupérer le cadavre et pour qu'il l'oiseau parte faire une autopsie. Donc l'autopsie a révélé qu'il s'était bien électrocuté, cet oiseau, donc il s'est posé sur un pylône et puis bah, il a dû toucher deux câbles et donc bah, il a fait court-circuit, il s'électrocute. C'est des phénomènes assez fréquents malheureusement sur les grands oiseaux comme ça, et on a des dispositifs pour essayer pour plus que ça arrive. Donc l'oiseau s'est fait virer, spolier et électrocuté. Et je disais, l'oiseau, donc, il est parti en autopsie, il est parti à Lyon, au CNITV, un laboratoire qui travaille notamment sur tout ce qui est intoxication et poison chez les oiseaux, notamment chez les vautours, mais pas que. Et donc, ils ont fait des analyses toxico de ce cadavre, et ils se sont aperçus qu'en fait, cet aigle était clafi de raticide, qu'il avait des doses quasi mortelles de raticide, donc il a dû consommer des proies qui étaient empoisonnées, et il en n'est pas mort, mais ça a dû sérieusement l'affaiblir, qui expliquerait aussi en partie le fait
qu'il n'est pas combattu,
voilà, qu'il s'est fait virer assez facilement. Si elle avait été certainement plus en forme, elle serait peut-être pas fait virer de son site, elle aurait eu le dessus. Et peut-être aussi, on peut imaginer qu'au moment où elle s'est posée sur le poteau, elle était peut-être un peu flagada et qu'elle a peut-être eu un comportement qui était inhabituel, quoi.
Voilà. les enquêtes des ornithologues de notre région, mais qui observent aussi des événements heureux, hein, puisqu'il y a des naissances.
Oui,
des vautours, mais ça fait partie du boulot aussi de comprendre et de pouvoir peut-être espérer, bah, par exemple, que ces poteaux électriques soient équipés.
Ah ben ça, on a déjà travaillé avec une Enedis pour sécuriser le poteau mortel, plus les quelques armements, on appelle ça des armements, qui sont à proximité. Et puis là, on doit faire cet automne, parmi les choses que je vais devoir faire, une étude complète de tout le réseau électrique sur le territoire de l'Aigle, parce qu'on le connaît, le territoire, et du coup, on va regarder poteau par poteau, lesquels sont dangereux, et fournir cette étude après à Enedis qui va s'engager à protéger tous les poteaux dangereux sur ce territoire pour plus que ça arrive, quoi. Mmh. Et aussi travailler sur cette histoire de raticide. Alors ça, on sait pas trop par quel bout on va le prendre, mais pour éviter, parce que là cet aigle, il s'est fait empoisonner, on l'a su, voilà, mais il y a certainement d'autres animaux qui doivent à qui ça doit arriver,
ouais. Et si les gens qui nous écoutent ont envie aussi peut-être de, je sais pas, de des fois vous avez besoin de bénévoles pour des actions d'envergure ou pas trop, ils se tournent vers leur petite association.
Si non qui n'hésite pas à venir vers moi. Vous trouverez mes contacts sur les réseaux ou sur la communauté de communes de Ganges. On fait des journées d'observation, etc. Enfin, on a une espèce de. Enfin, je suis loin de travailler tout seul, en fait. Je travaille avec pas mal d'ornitho bénévoles, souvent des retraités, qui font ça par passion et avec qui on échange régulièrement sur des suivis, des infos, etc., etc. Et j'en profite pour faire une petite annonce. On fait une journée d'observation de la migration la semaine prochaine. Mercredi prochain, le 24, à Saint-Romand-de-Caudière. On sera toute la journée sur le col à Saint-Romand là, pour observer les oiseaux migrateurs. On y sera de 9h à 17h. Mais n'hésitez pas à venir nous voir et puis justement partager quelques observations. Et puis, enfin voilà, bonne journée!
L'air pur, l'eau pure et une terre saine. De ces trois choses, nous n'avons plus une seule. Voilà, et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est?
C'était Bérangère Rémy avec nous ce matin au micro de Radio Escapade. On a un petit peu débordé sur le timing, mais c'était vraiment très intéressant. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une bonne après-midi et on se donne rendez-vous du coup jeudi prochain pour d'autres nouvelles du monde en pleine journée donc de grève et de mobilisation. Ciao, ciao.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international. Oh.
mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.